Merci, merci à, comment dirais-je, à Madame Pierson d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, d'ailleurs, elle a pas hésité beaucoup.
Je ne sais pas si c'est
Bordeaux ou si c'est nous, notre association. Mais en tout cas, merci. Et merci aussi à Denis Mola qui a réagi très vite sur notre proposition d'organiser ça dans les salons. Et à toute l'équipe, notamment Lénie Denoyel, qui était particulièrement efficace et rapide dans toutes les questions qu'on avait. Et pour la mise en relation avec Madame. FCE est une association qui fait partie d'un national. Donc, on est une quarantaine de délégations en France et qui a été créée il y a 70 ans et qui regroupe des femmes qui dirigent leur société et des cadres dirigeantes avec de l'expérience. Nous, sur Bordeaux, donc, je suis la présidente et ma vice-présidente est Natacha Poyac, qui dirige une société depuis 10 ans, qui est un laboratoire de plats cuisinés sur Bordeaux, Poyac Traiteur. C'est très bon, j'ai goûté. Et qui compte une quinzaine de salariés. Également Delphine Denis, qui est architecte décoratrice d'intérieur. Qui est sur Angoulême et qui a eu toute une clientèle également sur Bordeaux.
Voilà. Je ne loupe aucune réunion.
Fidèle au poste.
Voilà, donc à mon tour, je vous présente Betty Houry, qui est donc notre présidente FCE depuis avril dernier. Elle est élue à la CCI. Elle a de Bordeaux, je prends mes notes. C'est beaucoup de choses à dire.
C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein.
C'est pas toi. Elle est membre de la DESO, elle est gérante d'une entreprise d'ingénierie, pareil, depuis une dizaine d'années, qui regroupe autant des activités de bureau de conception et de fabrication de bandes test. Et aujourd'hui, donc, elle nous a donc défini et présenté brièvement FCE France. Et grâce à elle, donc nous avons, et grâce à tout le monde, hein, nous recevons aujourd'hui Madame Pierson. Donc Madame Pierson, à notre tour, on va vous présenter. Donc vous êtes diplômée de l'ISSEC, vous avez été RH dans l'industrie pharmaceutique. Ensuite, vous avez dirigé un hypermarché, ce qui n'est pas tout à fait les mêmes profils. Et ensuite, vous avez dirigé les achats et la logistique d'une grande enseigne à distribution. Et en 98, vous vous êtes dirigé vers le conseil externe en entreprise, puisque vous avez fondé Diag Expert, qui est aujourd'hui donc un cabinet de conseil par lequel vous faites de nombreuses études autour des entreprises sur le management. Et donc, d'où le livre « L'art du management ». En finir avec les idées reçues, qui est la suite d'un premier tome, qui était aussi si on était heureux, si je me trompe pas,
et si on décidait
d'être heureux dans son travail. Voilà. Donc là, je vous laisse continuer du coup pour vous présenter. Vous ferez certainement ça mieux que moi, en nous expliquant peut-être pourquoi vous êtes parti effectivement de la RH jusqu'à ce poste de dirigeant d'hypermarché et maintenant de conseiller en entreprise.
Bien, ben bonjour ou bonsoir à tout le monde. Merci à vous toutes de m'accueillir ce soir. C'est pour moi une expérience. C'est vrai que j'ai dit oui tout de suite parce que c'est pour moi de vous rencontrer, les personnes des femmes chefs d'entreprise, une expérience tout à fait enrichissante pour moi et un peu. J'ai beaucoup à apprendre, probablement de vous aussi. Alors pourquoi je vais vous faire une confidence toute ma vie professionnelle, je ne me suis jamais rendu compte que j'étais une femme. Je dis bien professionnelle. Hein. La première fois où ça aurait pu venir à l'esprit, c'est quand j'ai pris la direction d'un hypermarché. J'avais 35 ans hein, à l'époque, vieux. J'étais la première femme à prendre une direction d'hypermarché. Le mérite ne m'en revient pas, hein. Il en revient au directeur général qui a pris ce risque. Avec un raisonnement simple, hein, c'est qu'un hypermarché, c'est surtout fréquenté par des femmes et c'est dirigé par un homme. Donc si on y mettait un regard féminin, peut-être que ça pourrait améliorer les choses. Et là, pour moi, bon, je prenais la direction d'un hypermarché et quand on a fait la campagne, il y avait une rénovation quand j'ai pris. Et donc, à la suite, il y avait une relance de ce magasin, et donc réunion publicitaire avec l'agence et les gens concernés dans l'entreprise par ce sujet. Et ils sont tous, ça m'est passé au-dessus de la tête, très, très vite mis d'accord sur des 4 par 3 sur lesquels on allait dire « une femme dirige un hyper ». Et chez moi, la pièce, comme disait ma responsable des caisses, la pièce n'est pas tombée. J'ai constaté qu'ils étaient tous d'accord là-dessus et je ne comprenais pas pourquoi. La deuxième fois que j'aurais pu comprendre, c'est quand j'ai été membre du comité de direction dans la grande distribution. C'était un univers qui était encore très, très masculin. Et là, pour moi, c'était une expérience nouvelle. Je prenais et je ne me suis pas rendu compte qu'être une femme au sein d'un comité de direction masculin dans la grande distribution, ça n'avait rien d'évident. J'ai commencé à penser que c'était... Alors, je pensais que je ne présentais pas très bien mes dossiers, que je ne savais pas l'emporter du premier coup. Enfin, je me trouvais plein de raisons qui tenaient à moi, jusqu'au jour où il y a eu une OPA inamicale et où tous mes collègues du comité de direction, qui ne m'avaient pas fait de cadeau en tant que collègues du comité de direction, sont venus me voir, individuellement bien sûr, pour me demander ce que je faisais, comment je traitais mes stocks options, etc. Et là, je me suis dit, ah, c'est donc qu'ils me reconnaissent une certaine légitimité, mais je ne m'en étais pas rendu compte pendant les 10 ans où j'avais été au comité de direction. Donc là, j'ai commencé à comprendre que j'étais une femme. Et donc, comme moi, c'est un univers un petit peu inconnu pour moi, je suis toujours très, très demandeuse de la manière dont les femmes vivent le fait d'être dirigeantes et d'avoir des équipes mixtes à manager. Alors, en même temps, si je raconte un peu ces anecdotes, c'est parce que j'en ai tiré un peu une leçon qui peut être utile à tout le monde. Je suis désolée pour les hommes qui sont présents. J'espère qu'ils seront indulgents à mon égard. Mais j'en ai surtout tiré que, en fait, comme j'étais totalement inconsciente du danger, j'y suis allée sans me poser de questions. Et ça ne m'a même pas effleuré que ce qui se passait pouvait être lié au fait que j'étais une femme. Donc, j'en ai déduit qu'en fait... notre pire ennemi quand on est femme et qu'on a du mal à crever le plafond de verre, c'est pas tant les autres, c'est surtout nous. C'est-à-dire que notre comportement amène la gente masculine à se comporter d'une certaine manière avec nous. Mais si on n'est pas du tout dans cette optique-là et qu'on est soi parfaitement bien centré et sûr de soi, ça se passe pas trop mal. Donc voilà. Et j'insisterai un peu sur ce point que vraiment pour moi, le pire ennemi pour une femme dirigeante, pour progresser, c'est elle. C'est les limites qu'elle se met elle-même et son propre comportement qui forcément provoque d'autres en face, qui sont en face avec ce qu'elle pense, elle.
Alors c'est très touchant ce que vous dites, parce que souvent on nous pose la question, pourquoi avez-vous créé une association de femmes comme FCE, puis il y a d'autres réseaux féminins sur Bordeaux ou autres. Et à chaque fois, la réponse qu'on va dire, qu'on leur dit, et là vous en êtes tout à fait le témoignage, c'est... Et parce que justement, on est le reflet de femmes qui ont su diriger des entreprises, qui ont su mener effectivement des combats de management, d'économie ou autre, tout comme des hommes. Mais c'est surtout qu'on dit aux autres femmes, nous, on a su le faire. Vous, ayez confiance, vous en avez aussi la capacité, il n'y a pas de souci.
Et si elles pouvaient être convaincues de ça?
Voilà, et c'est leur donner confiance aussi.
Ça, je vous assure que ça change.
En tout cas, c'est vrai que sur votre parcours de dirigeante d'hypermarché, je tiens à relever une chose, c'est que vous avez particulièrement réussi puisque vous avez augmenté le chiffre d'affaires de 50% en moins de 3 ans.
C'était si une époque étaient bonnes. Où l'inflation était à 2 chiffres.
Ah oui, d'accord.
Il faut quand même moduler.
Il faut moduler, mais bon, ça montre bien qu'effectivement, vous avez été particulièrement pertinente. Et vous avez eu... aujourd'hui, si vous pouvez amener aussi des conseils en entreprise ou autre, c'est que vous avez votre expérience, une bonne expérience.
Vous avez vu qu'on fait une enquête profonde sur les invités. On regarde si elles ont des performances.
Je ne le savais pas, elle me l'avait caché. oui, je pensais en parler plus tard, mais je rebondis sur votre remarque. En hypermarché, dans la grande distribution, hein, tout va très très vite. Vous faites une tête de gondole, 2 jours après, vous savez si ça se vend ou si ça ne se vend pas. Donc tout va très vite. Et j'ai pris la direction de cet hypermarché en 2 janvier, avec l'inventaire. On a démarré des travaux 15 jours après. Normalement, un hypermarché qui est en travaux, hein, quand on vous casse le carrelage, qu'on refait l'électricité et autre chose de ce genre, tout bouge tout le temps et les clients, ils se sauvent bien vite. Hein. C'est plein de poussière, hein, ça n'a rien d'agréable. Hein. Et donc, on est plutôt à moins 30. Et nous, on a fait plus 10. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que 15 jours ou 3 semaines après avoir pris la direction de l'hypermarché, Je suis passée derrière quelqu'un qui était vraiment très, très excellent commercial. Moi, j'y connaissais rien. Hein. Ce qui m'a permis de faire tout à fait confiance à mon équipe sans aucun problème, puisque de toute façon, j'y connaissais rien, j'avais pas d'autre choix. Hein. Donc, j'ai fait confiance. Et ça a porté ses fruits. Et c'est développé ce que moi, j'appelle la fonction un peu copier-coller. C'est-à-dire que mon comportement avec mon équipe directe a été reproduit, je pense, jusqu'aux caissières. Et les caissières qui sont le dernier maillon de la chaîne, elles reproduisent le comportement avec les clients. Et 3 semaines après, mais ça a été très très vite, c'était au mois de janvier, des clients dans le magasin disaient « il y a quelque chose de changé dans ce magasin ». Il y avait sûrement quelque chose de changé, c'est qu'ils avaient un directeur compétent et qu'ils avaient touché une directrice totalement incompétente en matière commerciale. J'avais 6 mois de chef de département pour faire mes preuves avant, enfin j'avais rien quoi. Donc ça s'était passé ailleurs. Et ça s'est passé uniquement dans le management. C'était ma seule force. Hein. J'avais que ça. Mais ce qui m'a beaucoup frappée, c'est de voir que, ayant, 8 ou 9 cadres qui m'étaient reliés, alors qu'on était 400 dans l'hyper, ça avait descendu toute la ligne hiérarchique jusqu'au front, hein, jusqu'au contact avec le client. Et ça, ça a alimenté un certain nombre de mes réflexions sur le rôle du management et le pourquoi on a tout intérêt à parler du management et à avoir d'excellents managers.
D'où votre livre ?
D'où ce livre, pour essayer à la fois peut-être d'aider les managers qui sont un peu dans la misère. Hein. Ce n'est pas facile d'être manager au quotidien, mais c'est encore moins facile aujourd'hui qu'il y a 10 ans, quand je l'étais encore. Hein. Donc c'est à la fois pour ça, et aussi vis-à-vis des gens qui ont envie d'évoluer, soit de changer de job, soit les jeunes qui ont à s'orienter. Vraiment pour crier haut et fort si ce n'est pas une chose qui vous tente, si ce rôle-là, vraiment, vous n'y adhérez pas fortement, n'y allez pas. D'abord, vous allez être malheureux comme la pierre, et ensuite, vous allez rendre malheureux tous les gens qui vous sont reliés. Alors, sur le malheureux comme la pierre, depuis que je fais du conseil, j'essaie de convaincre les dirigeants, quand il y a un problème dans l'équipe, de dire, mais vous savez, quelqu'un qui n'est pas fait pour manager, il est sûrement fait pour autre chose. Hein. Tout le monde a des talents. Ne le laissez pas dans un poste de management. Vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir à la fois sur l'ambiance et sur les résultats. Quand j'arrive à convaincre, ce qui n'est pas aisé, parce que c'est difficile, de dire à quelqu'un qu'on n'en veut plus dans un poste de management. Donc il faut aussi apprendre à dire qu'on ne dit pas ça aux gens. On leur dit qu'on a besoin d'eux et de leur expertise technique dans un autre domaine. Pas difficile, mais ça change tout. Et à chaque fois que j'ai réussi, le dirigeant après m'a dit, parce qu'il ne me croyait pas avant, que la personne vraiment à qui on dit ça, qui n'est pas faite pour être manager, eh ben c'est un ouf de soulagement. Parce que quand il m'en parle, moi qui suis extérieure en conseil, c'est j'y vais tous les matins un peu avec l'épée de Damoclès dans le dos, en me disant qu'est-ce qui va me tomber dessus aujourd'hui, que j'ai absolument pas envie de traiter. C'est vraiment terrible pour le manager qui n'est pas fait pour ça. Et puis c'est terrible pour les équipes derrière, parce que comme il a peur, il n'est vraiment pas agréable au quotidien. Bon, mais j'anticipe un petit peu sur la suite, je mélange peut-être un peu tout, mais vous me sollicitez, je suis passionnée, donc j'y fais.
Effectivement, je ne suis pas le fil conducteur qu'on avait
émis. Peu importe.
Peu importe. C'est très intéressant, parce qu'il y avait une question que j'avais voulu vous poser, qui était, effectivement, vous étiez RH à la base. De là, vous êtes parti, donc RH, on est là sur du conseil, sur du dialogue, sur du juridique. On n'est pas du tout dans une version chiffrée, stats, probabilité, tout ce qu'on peut avoir et stratégie. On n'est pas du tout sur ces postes-là quand on est sur un poste de direction. Et au final, ça vous a énormément servi parce qu'effectivement, ça vous a permis d'établir du dialogue, non plus d'avoir des objectifs chiffrés avec vos équipes, mais de leur faire amener un sens et un but vers un projet. Et c'est peut-être ça, finalement, du moins ce que j'ai compris dans votre livre, c'est vraiment ce que vous essayez d'exprimer. Il faut convaincre les gens, on n'est pas là pour leur dire, bah, il faut absolument que là tu fasses +3 boîtes ou +6 boîtes, mais pourquoi est-ce que tu le fais ?
Alors,
est-ce que je résume bien ?
Tout à fait. Je dirais que mon expérience de RH, et c'est pour ça que j'étais contente d'en sortir, c'est que j'avais l'impression de toujours faire le pompier. C'est-à-dire d'arriver pour calmer un jeu ou un feu qui commençait à brûler et qui, au départ, il n'y avait rien, quoi. C'est simplement des maladresses. On aurait pu éteindre le feu très facilement dès le départ, aux premiers signaux faibles, si on les avait perçus. et, ou ne pas faire les maladresses que l'on fait. Et résultat, quand ça arrivait au RH, le feu était déjà un peu parti et c'était toujours, il fallait éteindre des feux. Alors que c'était tellement simple de les prévenir. Donc, j'étais contente de passer opérationnel en me disant, bon, ça y est, je vais finir par ne plus faire le pompier. Ça ne m'est même pas venu à l'idée que je pourrais avoir, moi, des feux à éteindre. Bon, j'en ai eu, hein, quand j'ai supervisé des directions, hein, j'en ai eu aussi. Hein. Peut-être pour mieux répondre à cette question, je voudrais montrer comment économique et humain, c'est terriblement lié. Y a plein d'études qui le montrent. Ce qui me rend plein d'espoir là-dessus, c'est que le cabinet de gestion financière et d'investissement, Odo, maintenant, qui a de très très bonnes performances hein, de rentabilité des capitaux qu'il gère, il fait des études sur la qualité du management. Et il lie ses investissements à la qualité du management. Donc il y a plein d'études depuis très longtemps hein, qui démontrent que les deux sont liés. Mais là, on a des gens qui sont uniquement des financiers, qui gèrent uniquement de l'argent et qui font des études sur la qualité du management d'une entreprise pour en conseiller leur, enfin, décider de leur, des entreprises dans lesquelles ils vont investir. Voilà. Juste vite cette diapo pour les dessins. Pourquoi ? Dans le premier ouvrage, « Et si on décidait d'être heureux, même au travail », ces deux petites filles qui avaient 5 et 8 ans, qui les ont illustrées. Et donc, elles ont illustré ce qui se passait quand on avait un mauvais management, ou au contraire, quand on avait un excellent management. Et à chaque fois que je peux présenter ces dessins, c'est vraiment la chose dont je suis le plus fière dans cet ouvrage. Donc je le fais, je vous fais partager toute la fraîcheur, et, un peu la naïveté aussi qu'il y a dedans, mais c'est surtout la fraîcheur. Hein. Et de penser que c'est des enfants vraiment très jeunes qui ont fait ça. Donc les enjeux humains, ben, tout un chacun les vit. Hein. C'est quand même bien plus agréable quand on a un métier que l'on aime et qu'on le fait dans une ambiance qui vous va bien. Hein. Je crois qu'il n'y a pas besoin de démontrer beaucoup. Par contre, les enjeux économiques et pourquoi c'est excessivement lié à la qualité de vie et au travail des collaborateurs. Imaginez ce qu'on vit beaucoup en ce moment, parce qu'on est dans le court terme, qu'on fasse, on dise, et je n'y ai pas échappé hein, quand j'ai dirigé des unités, il y a des objectifs économiques. Il faut faire plus tant de chiffres, il faut faire plus tant de marge. La pression, moi j'avais la chance d'être dans une entreprise où l'encadrement avait un intéressement à hauteur de 3 mois par an. Ça motive quand même, hein. C'est pas suffisant, mais ça aide. Et en plus, il était collectif. Donc, c'était l'équipe gagnait ou elle ne gagnait pas. Hein. Et donc, on avait bien sûr cette, toujours en toile de fond les résultats. Et je peux vous dire que tous les mois, ils étaient analysés et on regardait comment on se situait par rapport à l'objectif. Parce qu'à la fin du mois, il y avait, enfin, à la fin de l'année, il n'y avait rien ou 3 mois de plus. Hein. Donc, la pression sur les performances était là. Si on ne fait que ça, ce qui se passe, c'est que c'est les managers qui prennent la pression hein, sur les résultats, parce que c'est eux qui sont responsables des résultats. Sans résultat, il n'y a pas d'entreprise. Hein, donc loin de moi l'idée de dire qu'on peut faire l'impasse. Hein. C'est une condition absolument nécessaire. Mais si on a la pression sur les résultats et qu'on ne pense qu'à ça, on va exercer forcément la pression sur les collaborateurs. On va être à la chasse de ce qu'ils ne font pas bien, est-ce qu'ils sont bien là quand il faut, est-ce qu'ils arrivent à l'heure, enfin, des tas de choses qui mettent de méchantes humeurs. Hein. Et on leur dit toujours qu'il faut en faire plus avec moins. Donc ça, c'est de la pression sur les collaborateurs. Les collaborateurs, en général, ça met un peu de stress. Hein. Ou éventuellement, ils sont complètement je m'en foutiste, et alors c'est le pire que vous puissiez avoir, quoi, puisque de toute façon, ils n'en ont rien à faire. Hein. Mais généralement, les gens sont plutôt consciencieux. Donc ça met du stress sur les collaborateurs. Et fatalement, le dernier maillon de la chaîne, c'est le client. Et il y a droit, hein. Le stress est communicatif, l'émotion est communicative. Donc, sous stress, le client qui en plus vient vous dire qu'il n'est pas content, vous ne le recevez pas bien. Alors que la première chose à faire, c'est de reformuler ce qu'il met de méchante humeur pour que la mousse retombe et qu'il se sente écouté. Et au contraire, vous allez faire, vous allez monter l'escalier hein, et le ton va monter. Et si tout un chacun étant client, il est mal reçu, là où il va pour acheter quelque chose, il n'a qu'à traverser la rue, il y en a un autre qui va bien l'accueillir. Comme les 20% de clients fidèles, ils vous font 80% de résultats, Si vous ne recevez pas bien les clients, si vos produits ne sont pas fiables et ne sont pas conformes à ce que vous avez annoncé, ben fatalement, les clients vont déserter. Donc, pression sur les résultats, ça veut dire des résultats qui vont se dégrader. Ça me paraît, moi, d'une grande logique. En revanche, si vous proposez à vos équipes une vision partagée, et là, je vais avouer quelque chose qui n'est pas glorieux, mais n'empêche que ça a marché. Cette vision partagée, lorsque j'ai pris la direction de l'hypermarché, c'était sur Tours. Je prenais la direction d'un vieil hypermarché qu'on rénovait, mais il était vieux. Et on venait d'ouvrir un nouvel hypermarché, tout flambant neuf, où bien évidemment avaient été mis comme chef de département les meilleurs, entre guillemets, c'est-à-dire ceux que je n'avais pas, hein, puisque eux, ils n'avaient pas été choisis. Ils avaient tout. Un magasin tout neuf, du matériel tout neuf, les meilleurs, enfin ceux qui étaient perçus comme les meilleurs. Et nous, on ouvrait avec notre vieux bouclard de 20 ans, bien sûr rénové, mais enfin, c'était un vieux bouclard, et puis tous les gens dont on n'avait pas voulu pour le nouveau. Et là, j'avais bien sûr vu tous les gens qui m'étaient directement rattachés avant, hein, pendant 2 heures. Et puis, première réunion d'équipe, on a dit, ben, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on veut qu'on dise de nous ? Et je leur avais proposé, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup de matériel nouveau, je crois qu'on va être les viettes. Et vous allez voir, en progression de chiffre d'affaires, on va les battre. C'est pas glorieux, hein, mais je vous garantis que ça a marché. Et quand j'ai pris la direction des entrepôts, j'ai touché dans mes entrepôts le pire. Globalement, il n'y en avait aucun qui allait vraiment bien. Mais j'avais, par rapport aux 5 sociétés du groupe, celui qui avait les plus mauvais résultats. Et j'ai rejoué la même musique. Hein. Et ça a produit exactement les mêmes effets. 2 ans après, ils étaient les meilleurs du groupe, sur une 50aine. Donc, simplement, de dire aux gens, voilà, on a un défi qu'on partage, on a une vision, on sait où on veut aller. Et en plus, on va forcément être reconnu. On va ne plus traîner les casseroles qu'on traîne depuis un certain nombre d'années. Ça ne fait jamais plaisir à personne. Ça a soudé l'équipe de manière assez extraordinaire. Et je lis vraiment le fait que les clients qui disaient « il y a quelque chose de changé dans ce magasin », c'était vraiment lié à ça. Il y avait une vision partagée par l'équipe qui m'entourait. C'était quoi, 10 personnes, hein, pas plus. Qui l'ont démultiplié auprès de leurs équipes, et puis ça a continué hein, jusqu'au front. Ça veut dire que les managers étaient portés par cette vision, ils voulaient vraiment aller là. Je pense que j'avais donné un peu l'exemple en prenant le temps de parler pendant 2 heures avec chacun, et parler pas de ce qu'ils étaient, de leur cursus, de ce qu'ils attendaient de leur vie professionnelle, de où ils en étaient, de leurs inquiétudes, vraiment d'eux, hein, rien d'autre. Peut-être qu'ils ont probablement fait quelque chose aussi qui a changé leur comportement avec leur propre encadrement. Et ça a découlé jusqu'au personnel. L'exemple aussi d'être dans le magasin tous les matins et de faire les rayons et de dire bonjour à tout le monde. C'est idiot, hein, c'est rien. Mais je vous garantis que ça change l'ambiance.
C'est considérer la personne aussi.
Serrer 300 mains tous les matins, c'est bon. Mais n'empêche que vous avez le retour, hein, si vous ne le faites pas en automatique. Hein. J'ai toujours le souvenir des gens qui passent dans le couloir, qui vous disent « ça va bien », et le temps que vous répondiez que ça va, parce qu'on ne répond jamais autre chose, ils sont à l'autre bout du couloir. Donc, OK, ils auraient mieux fait de rien de me demander. Hein.
Vous y tournez la tête vers le prochain.
Voilà. Bon, mais si vraiment vous dites bonjour en étant présent à la personne, quand vous dites bonjour, je vous assure que ça change les choses. Hein. Donc, des managers portés par cette vision-là, ça va forcément les amener à avoir un management de qualité, parce qu'ils vont s'occuper du travail, du métier. Ils vont parler métier, ils ne vont pas parler résultat. Les résultats vont être la conséquence. Eux, ils vont s'intéresser à la personne, à qui elle est, à ses états d'âme aussi, hein, sans y passer une éternité. Mais bon, simplement le fait de dire « oh, t'as une drôle de tête, ça va pas », ou « bonjour, ça va bien », mais vraiment, quoi. En regardant la personne dans les yeux, ça change tout. Et ce management de qualité, ça met, alors j'y reviendrai un peu plus tard, des collaborateurs dans un état, je ne sais pas le traduire, de « flow hein. ». J'ai des clients qui ont traduit ça par un état d'énergie. C'est globalement être bien dans ses baskets, hein, au travail. Et à partir de ce moment-là, les clients, eux, vont être bien servis. Ils vont devenir plus que des clients fidèles, des clients attachés. Ça m'avait frappé en hyper de voir que des clients, le matin, enfin, il y a des personnes qui sont à la retraite, ils viennent acheter un litre de lait et une baguette dans un hyper. Et ils vont, quand il y a un nombre de caisses ouvertes qui permet de ne pas faire la queue, aller à une caisse où il y a déjà une ou deux personnes. Ah oui, mais cette caissière-là, elle va demander comment va le chien de Madame Michu. Et ça change tout. Donc tous les matins, ils viennent, juste pour qu'on dise bonjour, et ils vont passer à cette caisse où il y a cette caissière, ou ce caissier. Donc ça, ces clients-là, vous pouvez avoir un concurrent qui ouvre plus près, hein, ils reviendront quand même tous les matins chercher leur litre de lait et leur baguette. Donc ça vous fait vraiment les clients attachés. Et allez donc chasser sur la terre d'un concurrent qui a des clients qui lui sont attachés. Peine perdue. Hein. Donc vous aurez forcément des résultats si on refait la chaîne. Et en tout cas, la cheville ouvrière, c'est vraiment le manager. Donc je crois qu'il faut ôter de notre tête qu'on obtient des résultats en mettant la pression. C'est pas du tout comme ça. Oui, à court terme. 6 mois, 1 an. Mais après, pour remonter la pente, on souffre. Hein. Je ne citerai pas le nom d'entreprise connue, mais où les dirigeants qui passent derrière, ils ont du mal hein, pour changer. Parce que ça marque hein, un management à la hussarde. Donc ça, c'était pour vraiment dire résultats économiques et humains, tout va de pair. Hein. C'est les collaborateurs heureux qui font des clients heureux et des entreprises heureuses. Hein.
Il faut résister à l'envie de réagir à vos propos.
Je ne peux pas, j'en peux plus.
C'est vrai, mais on parle souvent de monde des bisounours. Hein, oui. Le problème, c'est quand vous avez un élément perturbateur, votre management fantastique, il s'écroule un peu quand même, à un moment donné, pendant un laps de temps, non? Vous n'avez pas eu l'expérience?
Alors,
un perturbateur qui a, je ne sais pas moi, ou une, hein, qui a des problèmes personnels, non?
Je vais vous lire mon expérience. Hein. Si, je peux répondre. Il faudra juste faire attention à l'heure. Hein. Juste une expérience. Dans l'hypermarché que j'ai dirigé, j'avais un prêtre ouvrier CFDT, une CGT Grand 1 et FO. Je passais derrière quelqu'un, excellent commercial, hein, mais manager pas terrible. Hein. Il avait réussi quand même à avoir tout ça dans un hypermarché il y a 30 ans, vous imaginez. Hein. Je me suis très très bien entendue avec le prêtre ouvrier. Je crois que dans notre tête, il y a cet élément est perturbateur. Et moi, je n'avais pas ça dans ma tête. C'est un garçon intelligent, intéressant, et qui est certainement, qui a une audience non négligeable. Et j'y suis allée avec ma naïveté, la même que j'étais une femme et je dirigeais un hyper. Et bon, quand je l'ai rencontré en CE, en DP, en DS, partout, je l'ai vraiment traité comme un alter ego. J'ai vraiment écouté ce qu'il me disait. J'ai travaillé avec un avocat, depuis que je suis conseil, hein, qui avait été DRH et qui disait toujours au patron, et j'ai retenu cette formule, il disait, vous savez, vous avez ce que la hiérarchie vous dit. C'est bien d'ailleurs d'aller voir sur le terrain, puis de sentir vous-même, hein, ça vaut toutes les discussions. Mais c'est bien d'avoir la stéréo. Et je crois que j'ai été dans cette optique, d'avoir la stéréo. Et d'écouter les partenaires sociaux jugés perturbateurs, exactement comme j'écoutais l'encadrement. Après, vous faites le tri. Hein. Mais le simple fait, au premier CE, hein, d'avoir écouté, de les avoir rencontrés, d'avoir discuté avec eux, mais quasi d'égal à égal, je ne dis pas que j'ai partagé leur avis, hein. Je crois que ça fait que c'était des éléments qui n'étaient pas faciles à manager, mais pas obligatoirement des perturbateurs. Ils étaient perturbateurs et fortement perturbateurs quand on ne les écoutait pas. Donc, je relis ça un petit peu à l'effet Pygmalion. Hein. Les gens se comportent comme vous vous attendez à ce qu'ils se comportent. Donc, si vous allez voir votre délégué syndical en vous disant déjà, on va croiser le fer, hein, ou ce qu'il va me dire de toute façon, je le rejette parce que je ne peux pas le voir. Hein. C'est vraiment le chien dans le jeu de quilles. Ça va forcément mal se passer. Alors, je ne l'ai pas fait sciemment. Hein. Je l'ai fait parce que je crois que j'ai un certain respect de l'autre. Et puis, en l'écoutant, eh ben, de temps en temps, ce qu'il me disait, j'avais intérêt à en tirer profit. Quoi. Ça ne veut pas dire que j'allais tout de suite aller dire aux autres ce qu'il m'avait dit. Bon, mais simplement, j'en tenais compte dans mes actions après. et je crois vraiment que ça change les choses. Il n'y a pas que ça. Quand j'ai pris la logistique en charge, j'avais la logistique de distribution. Et dans cet entrepôt, qui était le pire des entrepôts, j'avais aussi 3 centrales syndicales. J'avais les représentants syndicaux au comité central d'entreprise. Donc j'avais tout ce qu'il fallait, bien. Et là, je pense que simplement les écouter n'aurait pas suffi. Donc là, j'ai bâti une organisation qui changeait un peu les choses. Et j'ai vraiment joué sur les jeux d'acteurs. En deux mots, on a mis en place un chemin d'évolution professionnelle qui permettait aux gens d'évoluer. Donc, typique en logistique, un préparateur, cariste, réceptionnaire. Et on a créé une fonction, mais avec l'accord des partenaires sociaux. Tout ça s'est fait avec l'encadrement, c'est vraiment un travail d'équipe. Et on avait créé une fonction de professionnel de secteur. C'est-à-dire de gens qui, à la fois, pouvaient être préparateurs, caristes, réceptionnaires. Ça donne une flexibilité énorme, parce que quand il y a des camions qui attendent et que la réception est un peu en surcharge, on demande à des caristes d'aller donner la main, puis des préparateurs de donner la main aux caristes pour que les préparateurs ensuite n'attendent pas. Enfin, ça rend beaucoup plus fluide, et les résultats ont suivi en termes de masse salariale. Mais au niveau individuel, ça a donné à chacun des espoirs et des possibilités de devenir de plus en plus compétent. Et de devenir même, et le terme n'était pas anodin, professionnel de secteur. Ça veut dire qu'ils avaient vraiment un métier. Ce travail d'organisation a changé les choses. D'abord parce que les gens savaient ce qu'ils gagnaient à bien faire leur travail, parce qu'ils pouvaient évoluer. Et que du même coup, ça redonnait du pouvoir à l'encadrement, qui était comparable à celui des partenaires sociaux. Eux aussi, ils avaient la stéréo. Et ça change tout. Parce que je me souviens notamment d'une négociation où j'avais mis en place un intéressement collectif. Et bien sûr, alors ça, c'était quand j'étais encore RH. Je ne sais plus si je l'ai fait en étant opérationnel ou quand j'étais encore RH. En tout cas, l'intéressement collectif, les partenaires sociaux n'en voulaient pas. Bon, ils n'en voulaient pas parce qu'ils avaient bien vu que si on mobilise tout un ensemble de personnes, il y a une centaine de personnes dans un entrepôt, sur un objectif économique, en fait, qui est évalué tous les mois et qui fait que tous les mois, on peut avoir 10% de salaire en plus, ça serait plus difficile pour eux de les mobiliser pour débrayer. C'est sûr, il y avait un jeu de pouvoir. Il ne faut pas le cacher. Et ce n'était pas anodin d'avoir fait ça. Ouais. Donc, quand on a négocié avec les partenaires sociaux, les partenaires sociaux n'ont pas voulu signer. Il y a eu toute une stratégie de communication. Et le lendemain matin, à l'embauche à 5 heures, c'est l'encadrement qui a dit au personnel ce qu'on avait comme projet. Ce n'est pas les délégués syndicaux. Ils sont arrivés après. Ce n'est pas neutre. Et ceux qui ont porté cette parole et qui ont communiqué autour et qui ont discuté avec le personnel ont développé les arguments qu'on pouvait avoir pour mettre en place cet intéressement. Les partenaires sociaux n'ont pas signé. On a mis en place l'intéressement. Il n'y a pas eu de grève. Et l'année d'après, ils ont signé. Donc, ça ne se passe pas tout seul, je suis d'accord. Mais à chaque fois, je crois que si on a la volonté, si on a une équipe qui est convaincue que c'est ça qu'il faut faire, et que tout le monde va y gagner, c'est ça qui est important, c'est que les deux y gagnent. Je crois qu'on change la face des choses.
Il faut la patience aussi. Il faut accepter que ça prenne du temps et que ça ne se fasse pas quand on l'a décidé, dans le temps qu'on l'a décidé, quand même.
Oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas non plus mésestimer le pouvoir, entre guillemets, que l'on a. Je disais toujours aux membres d'encadrement qui venaient se plaindre de leur manque d'autorité, s'ils avaient des barrettes en plus, ça irait mieux. Rien du tout. Le délégué syndical, il n'a pas de barrette, et puis il peut vous faire sortir dehors tout un entrepôt. Il n'a aucune barrette. Et le membre d'encadrement, lui, il a le pouvoir de la dernière ligne du bulletin de paye. Et je leur disais toujours, comment vous avez le pouvoir sur la dernière ligne du bulletin de paye et vous ne faites pas le poids par rapport à un délégué syndical? Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas bien. et je remettais un peu en cause leur leadership. C'est pas logique. Ce qui ne m'empêche pas de reconnaître et de dire que c'est très bien d'avoir des partenaires sociaux et des gens qui vous grattent un peu le poil. Hein. Parce qu'autrement, on se laisse un peu aller aussi à la facilité.
Voilà, exactement.
Donc, moi, je crois que c'est une chance. Hein. J'ai vu, pas dans mon exercice professionnel, hein, en termes de conseils, hein, quand vous avez... encore qu'une fois, j'ai eu un directeur qui vraiment faisait pas le poids. Hein. Quand vous avez un mouvement social qui se déclenche et que vous n'avez pas en face une direction qui est une vraie direction et que vous n'avez pas de partenaires sociaux non plus, eh bien, vous n'êtes pas bien. Et quand vous avez une vraie direction et que vous n'avez pas non plus de partenaires sociaux parce que vous avez une direction qui a fait en sorte de ne pas avoir et qui a réussi, eh bien, ce n'est pas facile à gérer. Parce que vous n'avez pas d'interlocuteur en face. C'est pas vrai ce que je vous dis, je l'ai vécu une fois dans un de mes entrepôts. Il n'y avait pas, et le directeur était vraiment quelqu'un de très gentil. Hein. Mais peut-être parce que tout se passait bien à la bonne franquette dans cet entrepôt, il n'y avait pas de représentant du personnel. Et puis il y a eu un directeur qui était un ancien militaire, un mécanicien d'hélico. Donc lui, la règle hein, dans son entrepôt, c'était nickel, hein, au cordeau. Sur le plan de management, c'était moins bien. Hein. Et donc, il a eu un mouvement social. Donc, je suis descendue hein, pour négocier. Et là, il n'y avait pas de partenaires sociaux. Eh bien, je vous assure que ce n'est pas facile. Parce que vous n'avez pas d'interlocuteur en face. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont là. Vous ne savez pas très bien pourquoi ils sont là. Vous ne savez pas très bien comment ils ont été désignés. Et ils ne peuvent pas prendre position. Ils ne peuvent pas s'engager. Parce qu'ils vont vous dire oui, ils descendent. Et puis le lendemain matin, c'est non. Donc vous n'avez pas d'interlocuteur valable en face. Et je vous assure que ça, c'est pas drôle. Hein. C'est pas facile. Et je préférais, et de loin, un autre entrepôt où j'avais aussi les trois partenaires et où ils étaient membres du CCE et représentants syndicaux au niveau du groupe. Plus facile. Parce qu'ils ont une certaine autorité. On sait qu'on joue un jeu. On connaît les règles du jeu, de part et d'autre. Bon, la première, quand j'ai pris la direction de la logistique, il y a un des entrepôts qui, 15 jours après, s'est mis en grève. Bon, il y avait des raisons. Objectivement, il y avait des raisons. Je donne un exemple, parce que ça m'est vraiment resté. Ils sont en grève, donc on m'appelle à 5 heures du matin. J'arrive 6 heures du matin. Et donc, on fait une réunion tout de suite avec les partenaires sociaux pour savoir ce qui se passait. Et là, il m'explique, moi j'étais là depuis un mois, hein, pas plus, peut-être moins même, et il m'explique ce qui se passe. Et dans les explications, il y avait un cariste qui me dit, vous comprenez madame, mon chariot, il tourne qu'à gauche. Alors quand je dois prendre une palette à droite, il faut que je fasse le tour. Bon, du côté des approvisionneurs, il y avait des temps de réponse, des ordinateurs qui étaient de l'ordre de la 30 secondes. Insoutenable quand vous avez votre client au bout du fil qui vous demande quel est le prix d'un article pour faire une promo. Enfin, il n'y avait que des choses comme ça. Hein. Vraiment, je me suis dit, j'avais eu fortement envie de répondre à mon cariste, je ne comprends pas pourquoi il tourne qu'à gauche et pas qu'à droite. Je me suis dit que ce n'était pas le moment. Et, bon, je veux dire... Je ne comprends pas mon prédécesseur de ne pas avoir traité le problème, ou plus exactement, je le comprends bien. Il avait un budget d'investissement qui était faible, il n'avait plus de facilité d'obtenir, croyait-il, ses objectifs en faisant de la sorte. Bon, moi, j'ai eu tout à fait le processus inverse, c'est que la grève s'est finie au bout d'un jour et demi. Hein. Je suis allée voir la direction générale avec un plan d'investissement en leur disant « ça, c'est pas possible hein. ». Je ne dis pas que j'ai obtenu mon émerveille, mais en tout cas, ça allait mieux. Et ça m'a donné une certaine légitimité. Et en même temps, ça a créé avec les partenaires sociaux une certaine relation. Je me souviens qu'au bout de la journée et demie de négociation, on en sortait. Et donc, pour détendre l'atmosphère, je dis aux partenaires sociaux, paf, je crois que tout le monde respirait, hein, parce que les partenaires sociaux, quand ils ont mis tout l'entrepôt dehors, il faut le faire rentrer, hein, ils ne sont pas plus fiers que vous. Hein. Donc, on était allés ensemble voir l'ensemble du personnel et ils avaient décidé de reprendre le travail. Donc, on se retrouve dans la salle de réunion pour clore les négociations. Et pour détendre, je dis, bah, vous savez, je ne suis jamais qu'une faible femme. Hein. Et il y en a un qui me répond, ou pas si faible que ça. Et quand j'ai quitté l'entreprise 8 ans après, les partenaires sociaux sont venus me voir pour m'offrir un cadeau au titre des représentants du personnel. Donc c'est un peu...
C'est quand vous êtes parti, c'est ça?
Quand je suis partie.
Ils vous offrent un cadeau. Vous ne posez pas de questions.
Eh ben,
allez-y, continuez, parce que vous débordez.
Vous avez raison.
Vous allez réfléchir.
Non, ça fait partie de mes rails où je suis bornée. De même que je n'avais pas perçu que j'étais une femme, ça ne m'est pas venu à l'esprit. Voilà. C'était un petit peu pour répondre à votre question. J'ai été longue et j'ai débordé. Méfiez-vous, il faut m'arrêter parce que je suis passionnée. Donc c'était juste pour montrer que les deux étaient excessivement liés.
Le prochain slide?
Non, c'est fonction... Je continue? Oui.
Vous continuez. Le prochain slide, deux points.
Bon, je crois que j'ai abondamment déjà un peu développé qu'au cœur du processus, on avait le manager. Et donc, vous êtes tout à fait en droit de dire, et donnez-nous les recettes, comment on fait pour que ça se passe bien, ou du moins aussi bien que possible. Je vais vous décevoir. Juste vous rappeler que c'est bien au manager, sur lui que tout repose. On choisit vraiment une entreprise pour la marque employeur. Hein. On y reste pour la marque produit, hein, et on quitte un manager.
Ouais, c'est souvent relationnel.
C'est très clair.
Ouais, c'est souvent relationnel, c'est vrai.
Alors, le manager idéal, je vous l'ai dessiné, il est dans la boîte. C'est comme le mouton de syntaxe. Hein. Il n'y a pas de manager idéal. Je n'y crois pas. Il y a des managers dont le tempérament, la manière d'agir, la posture est en phase avec la situation dans laquelle ils se trouvent. Je ne voudrais pas faire de politique, hein, mais je crois quand même qu'à haut niveau, c'est la même chose. On a des gens qui sont faits pour diriger dans le calme, sur le long terme, et on a des gens qui sont faits pour aller à la bagarre et pour gérer les situations de crise. Je respecte les deux. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas mettre celui qui est au long cours dans une situation de crise. Il ne faut pas mettre celui qui veut tout casser toujours quand on a à travailler et à créer des fondations. J'arrête sur ce parallèle. Hein. En tout cas, je ne crois pas au manager idéal et au parfait descriptif du manager. Ça n'existe pas, je ne crois pas. Donc ça, c'est votre première déception, pour être complète. La deuxième, c'est que je ne vous donnerai aucune recette. Parce que j'ai appris, grâce à mes collaborateurs, qu'il ne faut pas donner de recettes. Mon fichu directeur d'entrepôt, qui était ancien mécanicien d'hélico, j'avais demandé à un autre directeur d'entrepôt qui avait été leader syndical de prendre en charge la formation au management de l'encadrement, parce que je crois que l'école syndicale est infiniment meilleure que l'école patronale. Il avait accepté et il était donc revenu de cet entrepôt avec ce directeur. Et moi, j'en attendais mon émerveil, hein, parce que je savais de mon passé de RH que je n'avais pas su faire. Mais je voyais bien que l'école syndicale, elle était bien. Et donc, on a discuté ensemble quand il est revenu de ce qui s'était passé. Et il m'a dit, vous savez, il y a quand même des situations où on ne peut rien faire. Hein. Et en fait, dans l'entrepôt dont il avait totalement changé le profil quand il a été nommé directeur, il a changé dans son propre encadrement et qu'il avait nommé d'anciens leaders syndicaux. Donc des gens qui avaient beaucoup de charisme. Avec ces gens-là, il s'est formé. Mais avec des gens qui ne sont pas faits pour ça, il ne sait pas. Moi, je n'avais pas compris ça encore. Je n'avais pas encore eu cette discussion avec lui. Et donc, j'avais voulu donner quelques conseils à ce mécanicien d'hélico devenu directeur logistique. Je l'ai fait une fois. Oh, il a fait exactement ce que j'avais dit. Pas au bon moment, pas avec la bonne personne, pas au bon endroit. Ça m'a rappelé un peu le dîner de con. Hein. Malgré tout, la pièce n'est pas tombée tout de suite. J'ai recommencé. Là, on a eu le mouvement. Hein. Donc j'ai compris. C'est vraiment un art. Et si on n'est pas un minimum doué pour, C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'à chaque fois, les situations sont d'espèce. Et à chaque fois, vous devez trouver par vous-même la solution. La solution, elle est chez vous. Elle est en fonction de votre personnalité. Et moi, je demandais à ce mécanicien d'hélico pour qui la règle était la règle, point. Et j'ai fait une note de service et je l'ai affichée partout. Je lui demandais d'écouter les gens et de ne pas réagir tout de suite. Et de ne pas faire appel à la règle. Il ne pouvait pas. Il n'avait pas du tout été éduqué comme ça. Quand vous révisez un hélico, vous avez intérêt à dire « j'oublie le point 19 de la checklist parce que, ben non, aujourd'hui, non, je ne me sens pas bien pour faire le point 19. Hein, » non. Donc c'était incompréhensible pour lui. Donc ben, le management, à mon avis, c'est un art. On peut donner quelques principes, mais certainement pas de recettes. J'espère qu'il n'y a pas dans la salle d'organismes de formation qui vont m'attendre à la sortie. Hein. Je n'y crois pas. Je crois qu'on apprend avec ses collaborateurs en descendant du vélo pour se regarder pédaler, et en écoutant ses alter-ego et en discutant de ses expériences, hein, puis en essayant d'en tirer profit, puis que ça s'arrête là. Il y a quand même quelques points de repère. Je les ai appris à mes dépens, mais c'est là que je voulais en venir. C'est qu'en fait, mes meilleurs formateurs ont été mes collaborateurs. Donc quand j'ai appris à mes dépens, ben, j'ai appris à mes dépens qu'il ne fallait pas donner de conseils, qu'il faut faire grandir les gens, et que s'il y a un conseil à leur donner, c'est un seul, soyez conforme à ce que vous êtes vraiment. Pourquoi ? Parce que si vous voulez être autre chose que ce que vous êtes vraiment, votre langage corporel n'est pas en phase avec votre langage verbal. Or, il pèse plus que votre langage verbal. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir en face ? C'est que vous n'êtes pas crédible. Parce que ce que votre corps raconte, c'est pas ce que vous dites. Donc, il faut se méfier. Alors que si vous acceptez, comme mon directeur mécanicien d'hélico, d'être un peu braque, parce que c'était dans la nature de son métier antérieur, hein, on vous le pardonnera. Si à côté de ça, vous respectez les gens, si vous vous souciez de leur devenir, on vous pardonnera, hein. Ils vont se filer le mot, aujourd'hui tu passes pas chez le patron, quoi. Puis c'est tout. Donc le seul vrai conseil que je donnerais, c'est bien celui-là. Puis après, c'est que du bon sens. L'idée, c'est de partir des attentes des collaborateurs. Toute personne de marketing et commercial, il sait ça. Pourquoi on l'oublie en management ? Tout le monde sait. Et puis vous avez qu'à vous poser la question pour vous-même, hein. Qu'est-ce que vous attendez ? Une bonne ambiance ? Un travail qui vous intéresse, et puis dans certains cas, pas tout le monde, de développer vos compétences. Je meurs d'envie de vous raconter une petite histoire sur le développement des compétences. Ah tant pis, hein, on passera plus vite sur le reste. Ça aussi, j'ai appris à mes dépens. Oh, j'étais jeune à l'époque, j'étais DRH dans l'industrie pharmaceutique, je devais avoir 26, 27 ans, quelque chose comme ça. Et il y avait dans l'atelier de conditionnement quelqu'un qui était vieux pour moi, là, je devais bien avoir 50 ans. Maintenant, je ne dirais plus la même chose. Hein. Et alors, toute la journée, elle avait un tourniquet qui passait devant elle avec des suppositoires. Et puis, devant elle aussi, passait le plastique dans lequel, les alvéoles dans lequel il fallait pousser le suppositoire. Donc, l'important, c'était de pousser un suppositoire dans chaque alvéole et de ne pas louper d'alvéole. En mettre deux, ce n'est pas possible. Donc, vraiment, tout automatique. Hein. Le rythme était fixé, ça tournait comme ça, ça se déroulait comme ça, il fallait faire ça. Et cette personne était toujours à l'heure, jamais de problème, un travail tout bien fait. Moi, du haut de mes 25 ans, ou 30 ans, même pas, hein, j'étais allée voir la pharmacienne responsable de cet atelier, je lui avais dit quand même, vous ne croyez pas que c'est du gâchis de laisser cette personne là ? Alors qu'elle elle est parfaite au niveau du comportement, une conscience professionnelle énorme. Est-ce que vous ne pourriez pas lui faire autre chose ? Et elle m'a dit, oh, oui, on pourrait la mettre dans une surveillance d'une machine de conditionnement. OK, on fait. Moi, j'étais très contente, hein, très fière. J'avais convaincu un opérationnel de faire quelque chose qui me paraissait intelligent. Sauf que, 15 jours après, l'employée du conditionnement, elle était en larmes dans le bureau de la pharmacienne. Remettez-moi au suppositoire. Bon, je ne vous dis pas comment la pharmacienne est venue me voir. Moi, RH, qui avait eu cette idée, géniale. Bon, j'ai quand même voulu savoir ce qui s'était passé, donc je suis allée voir cette personne. Je lui ai dit ça n'allait pas. La machine, pourtant, elle était payée plus cher, hein, cette machine. Oh non. Elle dit, mais pourquoi ? Elle me dit, mais vous vous rendez pas compte ? Vous comprenez pas ? Quand je suis à la machine, ben, je pense à le film que j'ai vu hier, ce que je vais faire pour le dîner à mes petits-enfants samedi. Mais à la machine, je peux plus. Faut que je fasse attention tout le temps. Donc elle était complètement dans l'automatisme. Physiquement, elle était là. L'automatisme, il était super bien réglé, il n'y avait jamais de problème, mais sa tête, elle était ailleurs, sur ce qui l'intéressait. Et voilà bien qu'on lui demandait de ne plus être dans ce qui l'intéressait et de s'occuper de ce qui ne l'intéressait pas. S'il lui mangeait en plus de l'énergie, alors qu'autrement, elle était en automatique. La journée passait, elle n'était pas fatiguée à la fin de la journée, hein, c'était automatique. Bon, ok. Donc, développement des compétences, j'ai compris que ça, c'était... Moi, j'étais peut-être comme ça. Mais pas les autres, hein, que j'aurais peut-être bien fait de leur demander avant de dire que c'était bien pour eux d'évoluer.
D'où l'importance des entretiens individuels, mensuels, trimestriels ou...
De s'intéresser aux gens.
De s'intéresser aux gens, hein. Parce que c'est vraiment prendre le temps de discuter avec eux et de savoir... Oui.
Honnêtement, j'étais pas claire, hein, c'est sûr. Et puis j'ai pris une bonne leçon. Mais la pharmacienne, elle n'était pas claire non plus. Parce que dans son atelier de conditionnement, il y avait quoi, 40 personnes et elle ne le savait pas. Ça, c'est pour me dédouaner. Hein. D'accord, j'étais pas bien, mais il y en avait d'autres.
Comme tout à l'heure, on n'est jamais bon en manager. Des fois, on a envie de faire évoluer, effectivement, là, c'est l'exemple que vous donnez. On pense pour les autres, à ce qui serait bien pour eux, mais en fait, on pense pour eux. Voilà.
Arrêtez de penser pour les autres.
Il ne faut pas penser pour les autres, il faut au moins les écouter.
Après, vous êtes obligé de faire évoluer tout le monde. Vous êtes obligé de soulever tout le monde. Ça demande plus que des discussions, mais vous ne pouvez pas les autoriser à stagner. La preuve, c'est qu'après, c'est évidemment une machine qu'on a mis. C'est pour son bien.
Elle est restée au suppositoire, elle est revenue à cette.
Aujourd'hui, à notre époque.
Aujourd'hui. Alors, pour abonder tout à fait.
Donc, on est obligé de faire évoluer en compétences, sans électrochoc. Hein. Mais c'est obligatoire.
C'est une co-construction. Je crois que si on va trop vite.
Oui. Oui.
Hein, l'exemple.
Vous êtes allé trop vite.
Je suis allée trop vite. Alors, pour abonder dans votre sens, hein, je ne vais pas dire que des réussites, hein, mon actif, vous me faites parler que de ce que j'ai loupé, mais ça ne fait rien, c'est des sujets d'apprentissage. Hein. J'ai vraiment été confrontée à ce problème-là en logistique au moment où on est passé des bouteilles, où on ramenait sa bouteille contre une consigne, hein, au plastique. Et il y avait notamment les 20 premiers prix, hein, qui étaient en bouteille, qui sont passés en plastique. Donc ça faisait le job d'une personne, hein, sur l'entrepôt qui ne faisait que ça, trier les bouteilles. Donc ça vous revient en vrac, et donc il faut trier les bouteilles par fournisseur. Hautement intéressant. Ceci dit, cette personne, on démarrait à 5h, elle était là à 4h30, il n'y avait rien à dire. Sauf que les bouteilles plastiques se sont développées et il n'y a plus eu de consigne en verre. Qu'est-ce que je fais de cette personne ? Elle avait... Elle était à 4 ans de la retraite. Pas question de la faire préparer. Il fallait lire des étiquettes. Impossible. Elle ne savait probablement pas très bien lire. Écrire encore moins. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? C'est vraiment... on ne peut plus former à rien. On ne va pas lui dire, attends, on va t'apprendre à lire pour pouvoir préparer. Qu'est-ce qu'on fait ? On a trouvé une solution qui était le départ en retraite anticipé. C'était l'époque où on avait le droit de faire ça, on pouvait, et dans de très bonnes conditions. Mais je vous assure que là, RH, opérationnel et intéressé, on se met autour de la table et puis on cherche la moins mauvaise solution. Hein. C'est vrai qu'on est parfois confronté à ça. Ça m'a un peu marqué. Il y a une deuxième expérience qui m'a beaucoup marqué. Celle-là est beaucoup moins gaie. Quand j'ai supervisé les entrepôts, j'avais dans un des entrepôts un directeur qui avait été directeur d'hypermarché et qui avait vieilli pas très bien. Et comme en même temps les rythmes s'accélèrent, et que déjà dans la distribution, on court déjà pas mal vite, ça avait été un peu catastrophique pour lui. On ne pouvait plus le laisser en hyper, c'est vrai. Bon. Il devait avoir une cinquantaine d'années, mais ce n'était pas une question d'âge. Hein. C'est la mécanique, le charisme. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui faisaient qu'il ne pouvait plus diriger un hyper avec les jeunes qui arrivaient. Enfin, c'était trop de choses pour lui. Et donc, on avait jugé bon, et certainement les gens qui l'ont fait dans un très, très bon esprit, hein, de le passer aux entrepôts à une époque où les entrepôts, c'était dernière roue de la charrette. Moi, quand j'ai pris la logistique, c'était devenu un enjeu stratégique. Il se passait beaucoup de choses en logistique, dont des stocks spéculatifs. Enfin, c'était vraiment un outil important pour avoir des prix bas. Mais mon directeur, il était venu au moment où c'était pas très important, la logistique. Il n'était pas meilleur en logistique qu'en leadership qu'il n'avait été dans les magasins. Et en plus, il fallait qu'il apprenne un nouveau métier. Sa mécanique intellectuelle, c'était un petit peu... elle n'avait pas été bien entretenue, on va dire. J'ai soutenu ce directeur pendant un an, et puis c'était du grabuge tout le temps. Je m'étais logée dans le même entrepôt, mais je ne pouvais pas complètement me substituer à lui. Puis j'avais quand même d'autres chats à fouetter. Donc j'ai fini par m'en séparer. On l'a fait le mieux possible, ça veut dire avec de l'outplacement. On lui a proposé d'autres postes en interne qu'il a refusé. Ça, c'est le pire. Hein. C'est les gens incompétents qui n'ont pas conscience d'être incompétents. C'est le pire. Quand ils en ont conscience, vous pouvez faire bâtir quelque chose avec eux. Mais quand ils sont inconscients d'être incompétents, c'est vraiment difficile. Donc, il avait refusé des postes où ça serait peut-être, ça aurait pu faire. Et finalement, on a fait un outplacement qui a abouti. Sauf qu'il a abouti dans une société qui n'était pas très correcte. Et comme la société dans laquelle j'étais était assez pointue en logistique, ce qui intéressait cette société qui l'a recrutée, c'était évidemment notre savoir-faire. Et il a fait deux périodes d'essai, enfin une période d'essai renouvelable. Et le vendredi soir, en rentrant chez lui, il avait sa lettre de licenciement. Alors, ça m'a beaucoup marqué, parce que le jour où, pas courageux, on l'a mis en logistique, enfin pas courageux, à l'époque ça n'avait pas trop d'importance, hein. Donc il ne faut pas que je dise pas courageux. En tout cas, on avait trouvé un moindre mal, le moins d'énergie à dépenser possible pour le recaser. Or, si on avait eu une vraie discussion avec lui, je pense qu'on se serait rendu compte que c'était quelqu'un d'hyper gentil, de très, très dévoué à faire progresser les gens. Le seul problème, c'est qu'on le menait par le bout du nez, hein, dans son entrepôt, avec les gaillards qu'il avait, la centaine de personnes. Hein. Et ça, il ne s'en rendait pas compte. Donc je pense que si, quand il avait 45 ans, au lieu de le mettre dans l'entrepôt, on l'avait orienté plutôt vers les RH et vers un métier de formateur, par exemple. Il aurait sûrement fait merveille. Et on n'aurait pas été obligé de le licencier à 52 ans. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à le licencier? C'est d'abord que moi, au bout d'un an, j'avais quand même plusieurs entrepôts, je n'avais pas que ça. Hein. Certes, j'étais bien dans l'opérationnel, hein, je ne perdais pas le contact. Mais enfin, ce n'était pas l'idéal. En plus, il fallait que je fasse attention à ne pas le constituer. Mais je me suis dit, moi, je ne suis pas éternellement là. Et derrière, il y a un entrepôt de 150 personnes, et c'est eux qui vont trinquer. D'ailleurs, il n'avait pas très très bonne réputation. Hein. C'était le dernier du groupe. Donc là, je me suis dit, entre 150 et lui, faut que j'aie le courage de m'en séparer, et on va essayer de le faire le mieux possible. Et peut-être un an après, les gens de l'entrepôt, l'encadrement, m'a dit, vous savez, madame, il était temps que vous le fassiez, parce que c'est votre crédibilité qui aurait été mise en jeu. Et si on n'est pas crédible, si on n'a pas un management de qualité, on n'a forcément pas les résultats. Et donc c'est toute l'entité hein, qui en souffrait. Ça veut dire que quand il y avait des possibilités de mutation et d'évolution professionnelle, on ne voulait pas des gens de l'entrepôt. Ça voulait dire hein, que quand il y avait un ennui, parce qu'on ne fait pas son travail nulle part, hein, on le fait parfaitement, hein, y a toujours des ennuis. Quand on a un entrepôt qui a une bonne image auprès des magasins, ça s'arrange. Quand on a une mauvaise image... à tous les coups, j'y avais droit au comité de direction. Bon, un camion qui arrive en retard, hein, ça vous arrivera tout le temps. On ne doit pas en entendre parler. Mais comme vous avez mauvaise presse, chuit, je te prends la main dans le sac et je te fais de la mousse avec ça.
Ça rend mon Dieu.
Donc, je parle vraiment de tout ce que j'ai loupé, ou des choses difficiles, c'était plus pour répondre à la question. Hein. Il n'y a pas de recette hein, dans des cas comme ça. Vous cherchez la moins mauvaise solution.
Mais après, il y a une solution économique ou une solution sociale.
Vous essayez de confier les deux, hein, vous essayez une porte de sortie.
On essaye voilà, toujours de concilier les deux, mais après, effectivement, à un moment ou à un autre, il y a un paramètre qui arrive. Hein.
J'en ai vraiment beaucoup voulu à mes prédécesseurs, tant en hyper qu'en logistique, qui se sont bien entendus quoi, pour ne pas traiter le problème, en fait. Le reculé, c'est le suivant qui allait en hériter. Bon, pas de chance, j'étais le suivant.
les jeux de pouvoir.
J'ai essayé de le traiter au mieux, mais la situation était déjà très dégradée. C'était plus facile de lui apprendre un nouveau métier à 45 ans qu'à 52. Hein. Il avait du ressort, là, il n'en avait plus. Il avait pris déjà un grand coup sur la tête quand on l'avait mis en entrepôt, pour une raison très simple. C'est qu'il avait 15 ans de magasin derrière lui, et diriger un hypermarché, c'est une véritable drogue. Alors ça, j'en avais un peu conscience, et quand j'ai pris l'hypermarché, j'avais prévenu que je ne voulais pas y rester plus de 5 ans. C'est une drogue. Alors on dit qu'il y a une pression économique, mais c'est de la drogue comme du jeu. Ça veut dire que vous jouez tous les jours avec le chiffre d'affaires. Pour la petite anecdote, parce que c'est drôle, c'est pour vous montrer combien le jeu peut vous amener loin. À Tours, il y avait un hypermarché au nord, donc celui dont j'avais hérité, puis un bourg tout neuf au sud. Et donc, ils étaient en bagarre pour celui qui ferait le plus de chiffres. Et on m'a raconté, mais longtemps après que j'ai pris la direction, qu'en fait, comme le nord battait jamais le sud, à un moment, le samedi soir, ils arrêtaient les compteurs à 8 heures au lieu de le faire à 22 heures. Et ils basculaient le chiffre sur le lundi. Comme ça, le lundi, ils grattaient celui du sud. Et alors, les directeurs, en plus, se menaient là, sans arrêt. Ils se faisaient des farces. Hein. Et puis, ça marchait à tous les coups avec le directeur qui était avant moi, parce que c'était un peu un sanguin, hein. Un excellent commercial, mais avec le défaut aussi du commercial. Bon, moi, ça n'a pas marché. Hein. Donc, il lui donnait des chiffres faux. Il lui disait... Bon. Mais j'en ris. Hein. Mais en même temps, moi-même, j'ai été prise à cette drogue. On s'était mis comme défi qu'on ferait mieux en progression, puisqu'on ne pouvait pas faire mieux en chiffres. Et bien, on regardait tous les jours si on avait bien fait mieux qu'en progression, quoi. Tout ce que j'avais réussi à faire, c'est qu'on ne le fasse qu'à la semaine. Mais j'ai réussi à faire à mon niveau, parce que je suis sûre qu'eux, ils se téléphonaient. Et ils continuaient à se raconter des histoires.
On continue ? Allez, c'est parti.
Donc, les points de repère, c'est en fait les attentes des collaborateurs. Vous les connaissez tous. En 10 minutes, je vais vous faire ça au pas de course. Je pense que là-dessus, rien ne vous choque. Hein. Ce qu'on veut, c'est un travail qui nous intéresse, dans une bonne ambiance, et pour certains, développer les compétences. À partir de là, sur quoi on attend le manager ? Outre les résultats, mais j'en fais l'impasse, parce que si on répond à ça, on aura les résultats, si la stratégie est bonne. Hein. Ben, il est forcément attendu, sur ces trois points-là, donner du sens, faire en sorte que chacun trouve du plaisir à ce qu'il fait, c'est-à-dire pas demander aux 10 orthographies de faire des lettres à longueur de journée, aux 10 orthographiques, hein. Et puis lui foutre la paix avec sa 10 orthographie, hein. Et qu'il fasse corriger les lettres à l'extérieur et à l'intérieur si ça le gêne, par son collègue qui n'en fait pas, ou qu'on lui mette une assistante qui n'en fait pas. Hein. Enfin, il y a des solutions, et qu'on ne l'embête pas avec ses points faibles. Ça c'est quelque chose où je crois qu'on n'insiste pas assez. On veut toujours, fait référence à vos entretiens d'évaluation, on veut toujours que les gens améliorent leurs points faibles. Mais non, ils ne peuvent pas. Et ce qu'il faut, c'est repérer leurs points forts et leur donner un job qui correspond à leurs points forts. Si vous boostez les points forts, ça va décoller. Si vous voulez corriger vos points faibles, vous n'y arrivez pas, vous êtes de méchante humeur, ça vous mange une énergie folle et il n'y a pas de résultat. C'est marcher sur la tête. Donc, dans les entretiens d'évaluation, quels sont vos points faibles ? On n'en a rien à faire. Quels sont vos points forts ? Donc, le travail qui ait du sens, je reprends les dessins qui ont été faits par mes deux jeunes de 6 et 8 ans dans le premier bouquin. C'est simplement, j'appelle ça avoir un soleil qui brille. C'était pas glorieux, je vous ai parlé de mes défis, c'était le soleil qui brillait, c'était retrouver une certaine fierté. Une fierté d'équipe, une fierté personnelle. Ça peut être tout autre chose, hein, mais je crois que c'est le rôle du manager que de donner une vision, et une mission, hein, quelque chose qui a du sens pour tout le monde. Alors vous allez me dire, et c'est pour ça que j'ai pris cette illustration, quand on est dans une usine qui fabrique des sèche-cheveux pour professionnels, allez donc trouver la vocation sociale et la mission humanitaire qui va animer tout le monde. Ça vous fait rire ? N'empêche que je leur ai posé la question, puisque j'étais là pour remobiliser les équipes, et que ça démarre par ça. Donc, avec le comité de direction, je leur ai dit, ben, quel est votre dessin? Enfin, qu'est-ce qui va faire vibrer les gens? C'est pas le tiroir casse, ils en ont rien à faire. En plus, ils n'en voient pas la couleur. Alors, ça peut que les mettre de méchante humeur, parce que le leur, généralement, fin de mois, il n'est pas très plein. Donc, qu'est-ce que c'est votre vision? Eh bien, à ma grande surprise, en une réunion, ils ont fait l'unanimité, ils étaient, enfin, tous les grands secteurs de l'entreprise, c'est une PME de 300 personnes à peu près, et ils étaient, je ne sais pas, 8-9 autour de la table, et ils ont dit, eh bien, notre vision, ce qu'on veut faire, c'est être le complice des coiffeurs. Et les coiffeurs, à force de vous sécher les cheveux, à 50 ans, ils ont des tendinites. Et donc, du même coup, c'était faire des sèches-cheveux qui ne provoquent pas de tendinite. Ça avait du sens et ça se déclinait partout. Par exemple, à la recherche-développement, c'était de trouver des résistances qui soient puissantes et légères. Je vous passe, ça m'a beaucoup fait rire, sur l'enquête ISO je ne sais combien, pour être certifié ISO qualité je ne sais plus laquelle c'était pour eux à l'époque. Ils avaient fait ça, ils étaient certifiés. Et il y en a un autour de la table qui a dit « Mais on avait fait une enquête client là-dessus. » C'était le directeur de logistique qui s'en souvenait, qui l'a retrouvé. Et j'ai dit « Bon, si vous voulez bien me la confier pour créer la vision, ça peut aider quand même de savoir ce que les clients attendent de vous. » Et il la retrouve dans le dernier tiroir, mais bien classé. Il me la prête. Bon, de retour à mon bureau, je regarde. Et là, j'ouvre et première page, j'éclate de rire. Parce que l'enquête client, elle avait été faite, mais c'est normal, par le responsable qualité qui avait demandé à la comptabilité de donner le fichier client. Et le fichier client, c'était le fichier des grossistes. Ben, normal. Or, si vous voulez être le complice des clients, il faut faire votre pub, il ne faut pas, surtout pas s'occuper des grossistes. Il faut être dans les revues que les coiffeurs lisent, de telle manière que quand ils vont chez le grossiste, ils disent « c'est ça que je veux ». Ce n'est pas du tout le sèche-cheveux sur lequel vous avez la plus grosse marge. C'est ce sèche-cheveux-là parce que je n'aurai pas de tendinite avec. Mais ce n'est pas le grossiste qui va le dire. Donc il faut que vous le disiez directement au coiffeur. Donc vous voyez, le fait d'avoir une vision, outre que ça mobilise tous les départements, ça a changé tout à fait ce que le marketing faisait. Ça a changé et ça donnait du sens à ce que faisait la recherche-développement, etc. C'est très très fort, une vision. Un autre exemple. Je n'ai pas pris de photo. Un autre exemple, c'est chez un de mes clients aussi, du tourisme. Et ça, je l'aime bien parce que ça remonte aux années 2000 à peu près. Une agence réceptive et qui gère à la fois des gîtes et donc des gens qui veulent passer des vacances dans des gîtes. Et on travaillait sur ce sujet avec eux. Et ce qui est ressorti comme vision, j'aime bien souvent que ça prenne la forme d'un slogan, c'est facilement mémorisable, tout le monde comprend. Et à l'époque, ils avaient dit le tourisme durable. Ça veut dire permettre aux gens de recharger leur batterie en étant respectueux de l'ensemble des partenaires, clients, propriétaires de gîtes et notre association, et de manière durable. En l'an 2000. Vous voyez la force d'une vision ? Comment elle pouvait se décliner. Ça fait vibrer, la vision. C'est de l'émotion, c'est pas tiroir-caisse. C'est pas vibrer. Et je crois que c'est le premier job du manager. Et si vraiment on veut, avec son équipe, on trouve toujours quelque chose qui fait vibrer. Et dans mon cas, c'était pas glorieux. Je le reconnais. Mais ça fait vibrer, je vous garantis. Le deuxième point, c'est vraiment de valoriser les talents de chacun. Oups là. Je suis allée un coup en avant. C'est de valoriser les talents de chacun. Je reviens sur ce que je disais. Ne vous occupez pas des points faibles. De toute façon, vous n'y changerez pas grand-chose. Personnellement, sur mes points faibles, par exemple en mécanique, j'ai compris que la seule façon que j'aurais de me dépanner, c'est de trouver quelqu'un qui voulait bien me dépanner. Je ne sais même pas où est le cri. Ce n'est pas la peine. Je n'y comprends rien. Mes enfants à 7 ans, quand il fallait remonter un robinet ou quelque chose, ils savaient faire, moi je me faisais tout à l'envers. Je ne vois pas dans quel sens il faut le mettre, je n'y comprends rien. Je ne suis pas talentueuse pour ça. Bon, je suis peut-être un peu plus talentueuse sur autre chose. Mais vraiment, avoir conscience, on a tous des talents. Et le problème du manager, c'est d'identifier les talents. et de passer du temps avec les gens qui sont talentueux pour comprendre comment ils font, pour qu'on puisse benchmarker derrière. Et pas du tout de passer du temps, comme je l'ai fait avec mon directeur qui n'était pas talentueux, j'ai perdu 2 ans. C'est bon, au nom de je veux pas, je veux quitter, tenter sa chance, je veux l'aider. Mais non, mon diagnostic, il était clair et tout le monde le savait. Il n'était pas fait pour ça. Et j'aurais mieux fait d'aller plus vite. Ça lui aurait évité d'avoir 2 ans terriblement pénibles avec moi sur le dos. Et ça aurait évité à l'entrepôt qui a vraiment explosé à partir du moment où on y a mis un leader à la tête. Hein. Ancien leader syndical.
Mais après, d'y croire, c'est ce qui fait aussi votre qualité humaine, de croire à l'individu. Alors, c'est difficile
exact.
De dire à N plus 2, j'aurais dû, il n'y a qu'à Faucon, c'est dur ça. Je pense que c'est ce qui fait que vous regardez dans un miroir, c'est que vous faites comme vous le sentez et avec du cœur.
Ça doit jouer.
Merci beaucoup Monique Persson de vous être déplacée jusqu'à nous et de nous avoir fait cette conférence, avoir partagé toutes vos expériences. On les retrouve dans votre livre pour l'avoir lu, est très ludique. Alors effectivement, les petits dessins que vous trouvez ici, vous les retrouvez dans le livre. Vous allez aimer aussi les petits tests que vous mettez dans le livre et qui permet de se positionner. Et j'ai trouvé très intéressant parce que certes, vous ne donnez pas de recettes, mais vous partagez votre expérience et c'est vrai que vous nous redonnez confiance. Et parce que des fois, comme vous dites, mais on n'est pas parfait, on se dit qu'on fait mal, mais malheureusement, il y a des problématiques qui font qu'on ne peut pas faire mieux. Et voilà, donc je voulais vous dire et vous dire merci, parce que grâce à vous, par ce livre, c'est vrai que vous redonnez confiance, et c'est pour ça qu'il faut le lire. Ouais.